Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Babel Pongo Massimango pour les journaux.
Bonjour. Trois attaques d'hommes armés ont fait au moins 7 morts et 2 blessés ce week-end, ainsi que ce matin à Djougou, au bord du lac Albert en Ituri. De nombreux habitants sont sur les routes en quête de refuge. Nous parlerons de ces conflits fonciers et de pouvoir coutumier à la base de plusieurs problèmes sécuritaires dans Massissi au nord Kivu. Pour l'administrateur assistant de ce territoire, l'État doit envisager un plan d'aménagement du territoire. Dans l'actualité aussi, la visite de près d'une semaine qu'entame aujourd'hui en RDC, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix et le directeur général de l'OMS. Une visite pour voir comment endiguer rapidement l'épidémie à virus Ebola au nord Kivu et en Ituri. Nous commençons en Ituri. Les localités d'Uchukpa et de Muvaramu au bord du lac Albert dans les territoires de Djougou ont été attaquées dimanche et ce lundi par des hommes armés non autrement identifiés. Ces deux nouvelles attaques s'ajoutent à celles de Muganga samedi dernier. Des sources concordantes rapportent que tous ces combats ont causé la mort de 7 militaires et de plusieurs civils. Des cases ont été incendiées, des biens pillés ainsi que de mouvements de population observés dans cette région. Isaac Remoyope nous fait le point.
L'attaque de la position effardissée de Païda, plus ou moins 5 km de Bénicentre, est intervenue aux environs des 4h heure locale. Selon les sources militaires, les assaillants avaient...
Trois attaques contre les positions des FARDC sont enregistrées depuis samedi dans les seuls territoires des Djougou. Ce lundi matin, un groupe d'assaillants a envahi les villages Uchukpa. Ils ont incendié plusieurs maisons selon les chefs des collectivités des Baïma Nord. Pilo Molindro ajoute que la position des FARDC de Muvaramu au bord du lac Albert a été également la cible d'attaque des ennemis dimanche matin. Les FARDC ont replié suite à l'assaut des rebelles qui se sont retirés après quelques heures selon la même source. Les samedis matin, une centaine d'hommes armés, munis de flèches et des ont également attaqué vers 4 heures les camps des FARDC à Muganga dans les groupements Sumbu sont en chefferie des Baïma Nord. Certaines sources avancent les bilans des 7 morts et 7 blessés dans les rangs des FARDC ainsi que 9 civils. Par contre, des témoins de ces drames qui ont fui à territoire voisin des Mahagi parlent des 20 civils tués et 15 blessés qui sont internés dans un hôpital en chefferie de Mukambu. Ils signalent également un mouvement massif de la population estimé à plus de 8000 personnes au camp des pêches de Kwero et de Mugunga. Les porte-parole des FARDC en Ituri confirment l'attaque des trois localités par des assaillants sans avancer un bilan. Le lieutenant Gilles Ngongo affirme cependant que les forces loyalistes ont chassé les ennemis. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis cette attaque tôt ce matin par un groupe des Maïmaï d'une position des FARDC à Païda, c'est à la périphérie de la ville de Béni au nord Kivu où se trouve le bureau de commandement des opérations Sokola 1. Le bilan fait état de deux assaillants tués pendant les combats. Martial Papi Mukeba.
L'attaque de la position effardissée de Païda, plus ou moins 5 km de Bénicentre, est intervenue aux environs des 4 heures heure locale. Selon les sources militaires, les assaillants avec les armées blanches et affaires ont tenté sans succès de prendre le contrôle de cette position des effardissés où se trouvent les bureaux du commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Selon le capitaine Mac Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1, des assaillants ont été tués après échange de tirs.
Il s'agit des assaillants Maïmaï pour tenter une incursion au quartier général du secteur opérationnel. Malheureusement pour eux, ils ont été vite neutralisés. Sinon, j'ai vu deux corps de jeunes gens qui faisaient partie de l'équipe. Il y a un bureau qui est situé à la barrière qui a été touché et un camion Kamaz des FARDC a essayé également de tirer, mais c'est juste au niveau de pare-brise.
L'attaque par les Maïmaï de la position des FARDC à Païda est la seconde dans l'intervalle les 72 heures en ville de Béni. Samedi matin, ces miliciens ont attaqué l'auditorat militaire des garnisons de Béni avant de libérer une trentaine de détenus, notamment des présumés Maïmaï et ADF selon des sources judiciaires. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Au Kasaï central, la société civile déplore l'activisme des jeunes ces derniers temps dans les secteurs de Dibataï, c'est dans les territoires de Dibaya. Cette structure citoyenne indique que cette situation empiète sur les efforts entrepris pour le rétablissement de la paix dans cette partie de la province. Le dernier cas est la blessure par balle d'un chef coutumier par un milicien. Plus de détails avec André Kambala.
Vendredi dernier, des jeunes lourdement armés qui se faisaient passer pour des éléments du mouvement communiste ont investi le groupement du chef de Bakwa Kalumé. Des sources locales indiquent que l'un de ces jeunes a tiré froidement sur le chef coutumier de ce groupement. Son péché, c'est de leur avoir demandé où ils allaient et ce qu'ils voulaient. Le chef Crispin Mutombo, grièvement blessé, a été interné à l'hôpital de Chikula, puis transféré à Kananga, selon le ministre provincial de l'Intérieur. Dimanche 28 octobre, les corps sans vie du chef de groupement de Bakwa Pela et l'un de ses conseillers ont été découverts dans une brousse. Face à cet activisme, certains responsables de services de l'État du territoire de Dibaya, sous anonymat, parlent d'une nouvelle réorganisation de la milice. Une information que l'administrateur du territoire et le ministre provincial de la Sécurité rejettent, parlant des situations sporadiques. Le président provincial de la société civile appelle les autorités à s'investir pour maintenir la paix dans cette partie de la province. Pour Jean-René Chimanga, nous nous approchons des élections, la paix est indispensable. Notons qu'il y a de cela 3 mois que la branche Kamuinan Sapu du chef milicien Sabanga avait fait reddition. Mais curieusement, s'étonnent plusieurs sources, cette branche serait pour le moment citée comme auteur dans ses dernières exactions. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu, les conflits fonciers de pouvoir coutumier constituent le fond des problèmes sécuritaires et de l'activisme de groupes armés, ainsi que des conflits interethniques enregistrés depuis plusieurs années en territoire de Masisi. Et si ces deux questions ne sont pas gérées convenablement, on assistera toujours à un cycle infernal de violence, disent nos sources à Masisi. L'administrateur assistant de ce territoire estime pour sa part que l'État congolais devrait envisager un plan d'aménagement du territoire pour faire face à la forte démographie qui s'observe actuellement dans ce territoire.
Pour Madame Berthe Moulio-Mouké, le problème des gestion des terres est multidimensionnel dans son entité. Elle parle par exemple des exploitants miniers, agro-pastoraux et d'autres concessionnaires qui occupent des grands espaces alors que le territoire connaît une forte augmentation démographique.
Est-ce que vous pouvez vous imaginer avec cette expansion démographique qui est galopante comme ça? Où est-ce que après 5, 10, 20 ans, cette population va vivre? À Masisi, c'est une zone à vocation agro-pastorale. Il y a des grands concessionnaires qui s'accaparent toute la terre au détriment de la population pour atténuer cela. Pourquoi ne pas faire le plan d'aménagement du territoire? Si nous voulons vraiment que ces pays puissent avancer, il faut vraiment opter à cette approche, la justice gagnant-gagnant. Non pas la justice gagnant-perdant.
Et de son côté, l'organisation Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, ACDH, qui dit avoir mené une étude sur cette problématique, appuie en indiquant que le problème se situe plus au niveau de l'accès à la terre qu'au niveau de la propriété. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la visite de près d'une semaine qu'entame aujourd'hui en RDC, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, le directeur général de l'OMS, Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, apporte d'autres précisions sur cette visite au micro de Honoré Missinga Kalala.
C'est une visite conjointe OMS maintien de la paix centrée sur le besoin de répondre le plus rapidement possible à la nouvelle flambée d'Ebola dans l'est du pays et d'endiguer l'épidémie pour que les populations puissent reprendre le plus rapidement possible une vie normale.
Ah, c'est-à-dire que les personnalités se rendront sur place dans l'est de la RDC.
Exactement. Ils rencontreront ici à Kinshasa les autorités nationales et ensuite ils se rendront dans la province du Nord Kivu. Ils rencontreront également les autorités locales et provinciales ainsi que les équipes qui sont chargées de la prise en charge sanitaire des patients atteints d'Ebola. Le leadership aussi des Nations Unies en RDC et évidemment la communauté humanitaire qui est mobilisée depuis plusieurs mois maintenant afin d'endiguer cette épidémie.
À propos de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri, au total, 298 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 263 confirmés et 35 probables depuis le 1er août dernier. Dans un communiqué rendu public hier dimanche, le ministère de la Santé publique rapporte 81 cas de guérison et 151 décès parmi les cas confirmés. Le même communiqué rapporte 5 nouveaux cas confirmés, notamment 2 dans la ville de Beni, 2 autres à Mabalako ainsi qu'un autre cas à Butembo. Les 2 nouveaux cas de Mabalako sont une jeune fille résidant à Beni et son nouveau-né de 2 semaines. Ils ont été transférés au centre de traitement d'Ebola de Mabalako à la demande de leur famille, précise le communiqué du ministère de la Santé. Enfin, au chapitre de la vaccination, 26 135 personnes ont été vaccinées dans les deux provinces depuis le début de cette opération. Processus électoral RDC, c'est dans 3 jours que va débuter l'accréditation des observateurs électoraux et de témoins des partis politiques par la CENI. Cependant, jusqu'ici, l'harmonisation des listes au niveau de regroupement politique tarde encore, d'après quelques partis et politiques. Askenzik Batayoro.
À l'UNC, on s'est dit prêt avec les listes de témoins. Ce parti cher à Vital Kamerhe dit qu'il ne sera pas en retard pour déposer à la CENI la liste de ses témoins électoraux. C'est le Yemba, porte-parole de l'UNC.
Nous sommes prêts avec nos listes de témoins. On a presque fini la formation de nos témoins. En tout cas, on ne sera pas en retard.
Du côté du MLC de Jean-Pierre Bemba, le travail de la confection de la liste des témoins s'active. Mais Jacques Njoli, cadre du MLC, dit qu'il manque à son parti la cartographie électorale pour bien harmoniser la liste des témoins avec les alliés au sein de l'opposition.
C'est sur base de cette cartographie que nous allons mettre les témoins par bureau de vote.
Pour la CENI, la cartographie électorale ne pose pas problème. Jean-Baptiste Itipo, directeur de communication à la CENI.
La cartographie électorale est déjà disponible. La partie 11-11 de faire la demande.
À l'UDPS, on se prépare encore pour la formation des témoins. Confirmation de Jean-Marc Kabound, secrétaire général du parti.
Je viens de signer une circulaire demandant aux présidents fédéraux de disponibiliser les témoins qui ont été recrutés par eux pour la formation. Donc, nous allons bel et bien accréditer nos témoins auprès de la CENI.
Dans le camp de la majorité présidentielle, on s'active également pour apprêter les listes des témoins afin de répondre au rendez-vous de la CENI.
Nous passons à l'invité à présent.
L'invité.
À Kisangani, une table ronde sur le processus de la foresterie communautaire en RDC poule orientale s'est clôturée vendredi. Qu'est-ce qui ressort de ces travaux et que prévoit la loi par rapport à l'octroi des concessions communautaires locales? Théophile Gata, directeur exécutif du Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales, explique dans cet entretien avec Goodly Vomondo.
Monsieur Théophile Gata, bonjour.
Bonjour Madame la journaliste.
Et qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette table ronde?
Bon, l'objet primordial, c'est de donner l'information sur les cadres réglementaires qui régissent ce processus en RDC, de sorte que les acteurs connaissent quelle est la procédure dictée par la loi pour qu'une communauté qui est dans le besoin d'avoir une concession forestière communautaire locale puisse suivre. Et ça, c'est vraiment primordial parce que ça mettrait les acteurs même qui accompagnent les communautés locales en conformité avec les prescrits de la loi. Et cette loi n'est pas connue partout.
Quelle est la loi par rapport à l'octroi de ces concessions communautaires locales?
Alors, le cadre réglementaire qui régit ce processus, c'est un mode de gestion de forêt où l'État a décidé, à travers les dispositions de l'article 22 du Code forestier, qui est une loi sectorielle dans la gestion de forêt de la RDC, l'État a voulu qu'une communauté qui a un espace traditionnel puisse les demander en concession forestière de communauté locale. Et cette demande devra suivre une certaine procédure. Quand l'État donnera cette CFCL qui sera sanctionnée par un arrêté du gouverneur de province, la communauté peut maintenant s'organiser, se structurer, comment gérer les ressources forestières qui sont dans cette concession. Alors, avoir des revenus et impulser le développement au niveau local. Le législateur congolais a voulu faire participer les communautés locales à la gestion durable des forêts. Vous le savez qu'il y a eu trop de conflits entre les communautés locales et les exploitants, par exemple industriels.
Ça continue.
Ça continue d'ailleurs. Et c'est mu par cette problématique-là que le gouvernement a pensé que donner une portion de terre sur un espace traditionnel à une communauté lui permettrait d'atteindre tant soit peu cela, mais aussi de responsabiliser les communautés locales. Parce qu'en fait, c'est une approche de gestion qui devient mondiale. On a remarqué à travers le monde que les espaces de forêt gérés par le peuple autochtone et les communautés locales sont les espaces les plus verts que les espaces gérés par les entreprises qui se déforestent facilement.
Quelle est la démarche à suivre par les bénéficiaires de ces concessions communautaires locales?
La finalité, c'est donner l'information à ceux qui sont censés accompagner les communautés locales et peuples autochtones dans les phases de demande, d'acquisition et de gestion des concessions. Parce qu'il y a toute une loi. Mais la loi ne dit pas que c'est chaque communauté qui doit demander. La loi est formulée de cette manière. Si une communauté peut, la loi ne dit pas qu'une communauté doit.
Quelles sont les initiatives qui favoriseraient la réalisation de ce projet?
Pour la province orientale, il y a par exemple les initiatives qui sont détenues par Adikis ici dans la Tchopo. Il y a des initiatives détenues par WCS tout autour de la RFO. Ce sont des initiatives porteuses. où les choses avancent. Il faut d'abord que les dossiers soient composés à la base par la communauté, entérinés par les secteurs. Il y a des acteurs étatiques qui doivent jouer un rôle à la base. Et ce sont ces acteurs qui doivent ramener les dossiers au niveau provincial pour que le gouverneur soit instruit par ses techniciens et signe l'arrêté. Où sont la plupart des initiatives? Ils ne sont pas encore sortis des secteurs. Qu'ils ont tous les outils, parce qu'il y a aussi des outils que le gouvernement central a fait valider, qui sont des modèles. Il y a un modèle de lettres, il y a le brigadier de l'environnement qui doit aller faire l'enquête au niveau du village pour savoir si la forêt appartient réellement à cette communauté-là. Une carte qui doit montrer les limites de cette forêt-là. Il faut des informaticiens qui connaissent les systèmes d'information géographique, tout ce qui doivent aller sur le terrain. Ça a un coût. C'est parfois ce coût-là qui fait qu'une communauté qui n'est pas accompagnée par une organisation ne pourrait pas s'en sortir.
Et qu'est-ce que vous recommandez pour que les choses avancent un peu vite?
Bien, pour que les choses avancent un peu vite, d'abord, il faut être sûr que vous qui accompagnez les communautés locales, vous avez le moyen de l'amener du début jusqu'à la fin. Vous l'aidez à se structurer pour gérer, vous l'aidez à pouvoir tirer des revenus pour impulser le développement au niveau local. Voilà le cycle complet. Et c'est ça même la finalité de ces espaces que l'État va donner aux communautés locales. Sinon, vous les aidez à obtenir, ils obtiennent, mais après, comme si de rien n'était. Et là, c'est grave.
Je vous remercie.
Merci, madame.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.